les radios stores avec la playlist. Maintenant faut passer sous le bureau pour qu'on passe tes disques, ouais. Plus la carotte est grosse, plus l'auditeur écarte les cuisses. Le top album 2006, c'est la banane d'Elvis. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas le rap, les portables, le shit, la DSP.
Autant passer la soirée avec vous, ça me réjouit pas. Autant avec ce son, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça va les gars ?
Manuel cherchait encore le rapport avec le changement dans le son, mais il s'appelle comme ça, c'est Changement d'Orelsan.
Oui, c'est très bien, je connais. Mais...
Ça va les gars ?
C'est votre
ça
choix.
Ça va, comment il va Mister Diaz ?
Ah ta gueule.
Et sinon, ça va ?
Ça va et toi ?
Bah, merci, ça a l'air de te réjouir de me poser la question, ça va très bien, merci Manuel.
Surtout que sans Manuel, on n'a pas les 10 nouveaux points de cet épisode, puisque là on fait la deuxième partie, si ouais, vous avez peut-être écouté la première.
Tout le monde nous a demandé, c'est faux, personne nous a demandé. Si vous pouvez nous demander de nos nouvelles quand même, parfois ça nous ferait plaisir.
On l'a décidé, donc si c'est la première fois que vous découvrez ce take-out, eh bien bienvenue, et puis on vous invite à aller voir du coup le premier épisode juste après, j'allais dire la première partie, j'ai failli m'en mêler, et puis sinon, bienvenue dans cette deuxième partie.
Ouais, de quoi on va parler ? Qu'on fasse un petit résumé quand même pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a eu un épisode entre-temps. On parle de changement, c'est ça ?
Manuel, fais-nous un petit récap.
Bah, attends, ils ont qu'à écouter.
Un petit récap.
On se fait chier à enregistrer des épisodes où on détaille tout, etc. Bon, on a fait un épisode sur le changement. Il y a eu une première partie avec 10 points. C'est un processus qui comporte 20 points. Donc, on va faire les 10 derniers points. Merci, les bisous chiens.
Félicitations. Avec, franchement, un tout petit peu moins d'acidité. Et c'était parfait.
Premier point, du coup, de cette deuxième partie.
Voilà, c'est pas compliqué quand même. On va y passer 10 ans, bordel. Vous prenez vraiment les gens pour des cons.
Le titre à la base, c'est changer tout, mais pas les gens. On va pas changer Manuel aujourd'hui.
C'est vrai.
Merci.
Vas-y, Manuel.
Onzième point.
Onzième point.
Déjà, je n'ai toujours pas digéré qu'on m'ait coupé cet épisode en deux, mais enfin, bref, on va tourner demain.
Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation.
À l'époque, on ne coupait pas. Hein.
Non, mais c'est sûr, mais c'est surtout qu'à l'époque, dans la tête des jeunes, il se passait quelque chose. Alors, onzième point. Dans beaucoup de cas, le changement menace l'image que tu as de toi-même. C'est-à-dire que le concept même de changer bouleverse l'image que tu te fais de toi-même. Et comme les gens, en général, comme vous, une haute opinion d'eux-mêmes, ça crée une résistance au changement.
Ok. Parce que potentiellement, tu vas remettre en question tout ce que tu as cru établir de ta propre personne.
Exactement.
C'est terrifiant.
Et qui fait que ton monde, que tu appelles humblement le monde, est remis en cause. Et ça, c'est un problème.
C'est un petit peu le phénomène de deux personnes qui s'aiment ou qui croient s'aimer et qui se disent « Ah, je commence à avoir des doutes et tout, mais en même temps, si je suis là, c'est pour une raison et c'est parce que j'aime bien cette personne, donc peut-être on va rester comme ça et on va surtout pas remettre en question notre couple. » Je parle pour toi et moi, là, Romain, si t'avais pas compris le clin d'œil.
Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'on a emménagé vraiment à 5 mètres de distance, etc. T'inquiète, je comprends.
Eh ben, on en apprend des choses. Donc, non, c'est intéressant de voir que des gens, on va dire, s'empêchent de changer presque par mécanisme de fierté par rapport à la conception qu'ils ont d'eux-mêmes.
Mais aussi, tu peux avoir peur du fait que c'est juste une passade et que
c'est trop philosophique.
Tu remets ta vie en question du jour au lendemain. Tu peux te dire, bah, c'est juste qu'actuellement, ça va pas très bien, etc. Mais ça ira mieux dans 2 mois. Je vais pas changer toute ma perception de ma personne aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que je suis comme ça.
Bah, ça demande beaucoup de courage, mais surtout, je pense que ça demande aux gens d'admettre publiquement que ce qu'ils étaient hier est moins bien que ce qu'ils vont être demain. Donc, ça demande d'admettre par rapport aux autres que tu peux t'améliorer, en fait. Que tu n'étais pas la meilleure version de toi-même hier.
Et c'est aussi très mal vu dans la société. Quand on dit de quelqu'un, il a changé, c'est constamment péjoratif. Donc, tu peux avoir peur aussi du regard des gens.
Ça dépend comment on le dit.
Ouais.
Là, je te fais deux interprétations. Attention, cours Florent. Il a changé. Hein.
Ah, il a perdu du poids, ça veut dire.
Voilà. Et sinon, tu peux dire, putain... Il a changé.
Ça, c'est les youtubeurs.
Voilà.
C'est toujours quand on parle des youtubeurs.
Allez.
C'est après le 4 des 100 000.
Le Molière est pour moi cette année. 12e point. dans un processus de changement, il faut savoir laisser de côté ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et quand tu n'as pas le discernement sur ce qui est important de ce qui ne l'est pas, bah en fait, tu changes. En fait, tu fais n'importe quoi, en fait. C'est plus un processus de changement, c'est un processus d'adaptation permanent. Donc, avoir ce discernement entre ça, il est important de changer fondamentalement cette partie et le reste, on s'en fout, c'est un critère très important. Alors, je sais, on arrive au 12e point d'une méthode en 20 points, donc on commence à être de plus en plus précis.
C'est très précis, mais, voilà. Mais c'est intéressant.
Bah, c'est surtout que j'arrive pas trop à me projeter quand déjà tu changes. C'est déjà un process important. Tu te parles à toi-même dans le miroir en train de te dire, tu fais une rétrospective quand même de qui t'étais, etc. De ce que
ça, par exemple, excuse-moi de te couper, mais par exemple, j'en suis pas si sûr. C'est-à-dire que je pense que il y a beaucoup de gens qui changent sans se rendre compte qu'ils changent. C'est-à-dire le changement lié à une prise de conscience est beaucoup plus rare que le changement comme ça au fil de l'eau sans s'en rendre compte. Et je crois d'ailleurs que le changement lié à une prise de conscience, il est surtout lié à des événements un peu malheureux ou des grosses déceptions ou tu vois ou
des chocs,
des impacts émotionnels. Ouais.
Mais c'est plus rare.
Ouais, parce que ça prend beaucoup de temps de changer, donc forcément c'est pas un truc que tu changes pas du jour au lendemain.
Bah, il est rare que tu te réveilles un beau matin et que tu dises « bon, je veux plus être comme hier ».
Moi, perso, je me suis réveillé ce matin, j'étais chauve, donc si, ça arrive. Mais
Et souvent, je pense que l'entourage professionnel ou personnel joue pour beaucoup. Si du jour au lendemain, tu quittes ton appartement familial, que tu vas dans une nouvelle société, que tu croises plein de gens complètement différents, mais qui t'inspirent, où tu te dis « waouh, mais attends, tous les gens que je vois là autour de moi, j'ai envie d'être comme eux dans 5 ans, cette boîte est dynamique et tout », tu peux en fait changer naturellement sans forcément te forcer. Par contre, rester dans son cocon et vouloir changer parce que tu regardes des contenus sur Internet, parce que tu écoutes des podcasts, parce que ça demande encore plus d'efforts. C'est pour ça que je disais, peut-être que oui, tu as raison, il y a majoritairement plus de gens qui changent sans s'en rendre compte, mais la plus grande des difficultés, je pense que c'est de changer volontairement. Sans que ça soit, parce que c'est toujours plus facile quand tu regardes à côté de toi et que tu te dis bon bah il fait pareil, c'est que ça doit pas être si terrible, je vais faire comme lui, tu vois.
Mais c'est un problème d'ailleurs, parce que le changement auquel tu procèdes sans t'en rendre compte, c'est un changement d'adaptation, c'est pas un changement réfléchi. Alors que le changement derrière un choc, c'est un changement réfléchi, mesuré, désiré, souhaité.
Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage.
C'est pour ça qu'il faut foutre des grosses claques dans la gueule des gens.
Ouais, mais en vrai c'est vraiment important d'avoir un entourage qui peut te permettre de te rendre compte que t'as changé, parce que la plupart du temps c'est absolument naturel et tu le vois pas du tout. Moi je sais que souvent sur YouTube, dans les commentaires, je vois plein de mecs qui me pointent des micro-changements de « ah t'as changé ton ton, ah, à l'époque ça ressemblait plus à telle personne et là t'as pris de cette inspiration et tout », et je m'en rends pas du tout compte. Et je le constate par des commentaires de gens que je ne connais pas, qui me disent « ah c'est marrant, t'as évolué dans cette… » Puis je me dis « mais non, c'est moi en fait ».
Et tu me le disais d'ailleurs dans l'une de tes prochaines vidéos, que je vais pas spoil, mais Léo me disait « je suis en train de travailler ce détail-là ». Genre, je pense que la plupart des gens qui me suivent vont être en mode « mais pourquoi il fait attention à ce truc-là » etc. Ouais. Et en fait, le fait d'être maintenant dans de nouveaux locaux, avec d'autres gens, etc., et de voir aussi le niveau de détail apporté dans ces locaux-là, ta question, c'est pas simplement la machine que tu prends, c'est aussi la couleur de ton câble, c'est aussi le truc, c'est l'expérience utilisateur que tu vas avoir avec tes produits, etc. Mais ça, c'était intéressant parce que finalement, tu l'aurais peut-être pas fait si t'avais été chez toi.
C'est un changement qui est provoqué par l'environnement.
Exactement. 13e point. Il leur manque du courage ou ils ont peur d'échouer. Et la question du courage, ça paraît complètement con dit comme ça, mais les gens sont très peu... on est très peu équipé en courage quand il s'agit de soi-même.
Ouais.
On a toujours du courage pour les autres. D'ailleurs, on souhaite bon courage aux gens. Mais quand il s'agit d'en avoir pour soi-même, c'est plus compliqué.
Et je pense que la plupart des choses où tu manques de courage, parfois c'est juste un manque aussi de relativiser. Il y a des choses où tu fais bien de ne pas être courageux, de faire un truc ultra dangereux qui pourrait mettre à mal toute ta famille ou des choses comme ça, mais à certains moments, des gens se disent « oh, ça c'est dangereux, etc. » Ils ne réalisent pas deux secondes que si tu remets les choses dans leur contexte, il n'y a rien de grave en fait à échouer ce truc-là. Quoi. Ça ne va pas te faire mourir demain matin. Et pour autant, tu te confortes dans cette idée-là, mais c'est humain.
Là, on parle beaucoup de courage. Pour moi, on outrepasse la valeur de ce mot. C'est-à-dire que On dit souvent, ah, il faut du courage pour faire ci, il faut du courage pour faire ça. En fait,
parce que le plus dur, c'est de relier.
Attends,
le
finis d'abord.
Ah, si tu veux.
Et en fait, il faut juste.
Une pause de 5 secondes, connard.
Non, mais t'es pressé.
Pas du tout.
Le silence est aussi important.
Je sais, c'est le timing. C'est le timing.
Surtout dans ton cas, d'ailleurs.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc, il faut avoir le courage de se faire face, en fait. En fait, je pense que il y a des gens qui mettent leur vie en jeu ou qui ont la vie des gens entre leurs mains, des médecins, des militaires, etc. etc. Eux, ils ont du courage. Eux, ça, on peut vraiment parler de courage. Nous, on est là en train de se dire, oh là là, il va falloir que j'explique pourquoi mon projet a échoué.
Oui, ça va.
C'est pas du courage, quoi. Tu vois, c'est...
Mais je crois que c'est très important.
La lucidité.
Ce que tu as dit, on a du courage pour les autres. Parce que du coup, si tu as quelqu'un de confiance, tu sais qu'il est de bons conseils. À chaque fois que tu as un projet, tu as un truc que tu as peur de faire, il faut lui en parler, en fait. Et lui, il aura le courage pour toi parce que ça ne l'implique pas. Donc tu peux lui demander, bah, à ton avis, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que j'aille déménager dans telle ville là où je connais personne ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je postule dans cette entreprise, etc. Tous les trucs qui te font peur. Tu demandes aux autres gens qui sont pas du tout impliqués là-dedans. Eux, ils auront un regard hyper objectif sur ce qui est la bonne chose à faire.
Et d'ailleurs, il faut s'encourager de gens qui ne vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre.
Ouais. Bah oui, surtout ça. Ouais.
Et la quantité de gens qui s'entourent que de bénis oui-oui, de gens qui leur disent qu'ils sont formidables, que c'est extraordinaire, que ce qu'ils font est magnifique, etc. Moi, ça, sincèrement, ça me pète les couilles.
C'est pour ça qu'on dit souvent que les proches, c'est pas les meilleurs sur tous les points, parce que oui, que tu fasses goûter une pizza à un proche et qu'ils te disent qu'elle est bonne ou vraiment dégueulasse, tu vas le voir à sa tête, mais te dire demain que ton projet sur lequel tu travailles depuis 6 mois, c'est de la merde, bah, c'est pas ta mère qui va te le dire, quoi.
Bah, la première des qualités, moi, que je demande à mes proches, c'est de me délivrer leurs pensées, quand ils en ont une. Sinon, ils ne sont pas des proches, de toute façon. Mais moi, dans les relations qu'on a les uns avec les autres ici, ce que j'attends de vous, c'est d'avoir votre avis. Ce n'est pas de me dire un truc qui me fait plaisir. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je m'entends bien avec vous. Parce qu'avoir des gens qui me disent ce que j'ai envie d'entendre, je veux dire, j'ai que ça.
Pas toujours facile tous les jours. Ouais.
Ça, c'est une qualité que j'ai développée avec vous. J'avais pas du tout ça avant.
Ah ouais ?
Et maintenant, je suis beaucoup plus honnête.
Est-ce que tu pourrais d'ailleurs te calmer sur le développement de cette qualité ?
Non, non. Bah, par contre, t'as créé un monstre. Mais... non, mais ça dépend avec qui, mais avec des gens où je sais que je suis assez proche, etc., où j'ai vraiment des trucs à dire. Parfois, assez négatif et assez difficile à entendre, j'arrive beaucoup plus à le faire. Alors qu'avant, je crois que mon entourage avait pas développé cette compétence parce que je sentais que ça pouvait faire du mal et que du coup, c'était uniquement un défaut.
Ouais.
Je voyais pas trop la plus-value de ce truc-là. Parce que aussi, si t'es entouré de gens qui savent pas le recevoir, c'est forcément un défaut. Parce qu'elles vont rien en faire.
Oui, bien sûr, mais je pense que la première des politesses, c'est de délivrer sa pensée et d'être capable de l'argumenter. Faut pas que ça soit gratuit.
Moi j'insulte juste, par contre. Mais c'est pas ça qu'il faut faire.
C'est de donner ta pensée et de devoir aux autres ce raisonnement, être capable de vouloir leur progrès, etc.
Ouais.
Si t'en as rien à foutre des gens, contente-toi de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. En général, c'est beaucoup plus rapide, tu gagnes énormément de temps et t'as des relations complètement superficielles, c'est formidable. C'est-à-dire ça t'encombre pas, en fait. Quoi, tu vois. Bon.
J'avais un dernier point sur le courage que j'ai commencé, merci, à lire dans Arrêter de couper la poire en deux.
Ouais.
Je trouve du coup le début de ce livre génial et il
et
parle.
Tu ne liras jamais la fin, donc
si,
le
si,
début
si, si,
était
toujours.
Intéressant.
Non, 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 là ça va, je m'y suis mis, les gars. Réussir à réunir la partie rationnelle et la partie irrationnelle du cerveau des gens. Et je trouve que la balance, et c'est vrai, ultra compliqué. Parfois, tu as des gens qui sont vraiment complètement irrationnels et du coup, ils fantasment sur plein de trucs et ils font rien, ils s'agitent beaucoup et ils pensent avoir plein de courage, mais en fait c'est juste qu'ils arrivent rien à rationaliser, donc à exécuter correctement. Ouais. Et les gens qui sont trop rationnels n'arrivent pas à avoir le courage de faire un tout petit truc, un poil irrationnel, pour se rendre compte que finalement le début de ce truc-là qui paraissait un peu fou, finalement est pas si inaccessible que ça et que tu peux le rationaliser. Mmh. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie d'ajouter.
Mais c'est intéressant parce que si on suit ce raisonnement, bon, on s'écarte un peu, mais si on suit ce raisonnement, on détecte assez vite que dans nos décisions, il faut certes une part rationnelle, mais il faut aussi une part, non pas irrationnelle, mais plutôt émotionnelle. Mmh. Et s'il manque un des deux paramètres, eh bien, tu perds en efficacité. L'efficacité n'est pas que du côté rationnel. C'est un mythe de penser ça. C'est pas parce que tu prends que des décisions rationnelles que tu seras efficace. Si tu prends que des décisions rationnelles, tu seras rationnel.
Ouais.
Ce qui ne veut pas dire efficace. Des fois, il faut être émotionnel ou irrationnel, dirait Romain. On voit déjà dans quelle catégorie il se classe. Pour être efficace. C'est ce que on disait dans je ne sais plus quel épisode, quand on disait la distance la plus courte entre deux individus en matière de management, ce n'est pas la ligne droite. Des fois, il faut accepter de passer par des méandres émotionnels. Et il y a beaucoup de gens qui handicapent leur changement ou leur capacité à changer parce qu'ils veulent absolument que ça soit extrêmement rationnel. C'est-à-dire que point 1, point 2, point 3, point 4, et puis on passe pas du 2 au 4, etc. Mais non, c'est pas vrai. Les humains sont des humains, ils sont des mammifères, des animaux sociaux, et pour provoquer un changement durable, il faut parfois passer par des choses un peu émotionnelles ou irrationnelles.
Je répète ce que tu avais dit, Léo, dans le précédent épisode, du coup, dans la partie 1, on est complètement concerné par tous ces points. Hein. On n'est pas en train de donner des leçons aux gens, etc. L'objectif toujours de Stakeout là, c'est de prendre des sujets un peu de philosophie de vie, de business, d'entrepreneuriat et d'essayer d'échanger ensemble pour obtenir un poil plus d'ouverture d'esprit en fait en fin d'épisode. Quoi. Voilà.
Moi, je vous partage ma liste.
Vous en faites ce que vous voulez.
En fait,
quoi.
On raconte tous nos défauts, on essaie de les transformer en conseils.
Exactement.
Exactement, surtout vous d'ailleurs.
Enchanté. Putain, j'étais sûr, je me suis dit, il va pas la laisser celle-là.
Le 14e point, c'est mon point préféré de toute cette liste.
Ok.
Un des premiers freins au changement, c'est que les gens n'ont pas encore assez mal.
Ah, ils n'ont pas assez souffert.
Exactement. Tu peux pas changer si tu t'es pas pris déjà le platane 4-5 fois dans la gueule. Si t'as pas la gueule de travers, tu te dis pas, tiens, au prochain virage, je vais peut-être un peu freiner parce que j'en ai marre de me faire démonter la mâchoire.
Ouais. Bah, on en revient un peu à ce truc de choc émotionnel.
Ouais, mais je pense presque que c'est... Alors, certains vont me traiter de masochiste, mais je pense que c'est presque physique. Il faut que tu aies à la fois mal intellectuellement et il faut que ça t'ait vraiment heurté presque physiquement. Il faut que t'en aies souffert, quoi.
Ouais.
Ça va provoquer du changement durable. Sinon, c'est que de l'adaptation.
Il y a un livre qui s'appelle Can't Hurt Me qui parle de ça. L'auteur raconte qu'il faut être constamment dans une sorte de souffrance et qu'au bout d'un moment, on ne souffre plus, mais c'est ce qui instaure le changement chez les gens.
Exactement, mais c'est ce que dit Schopenhauer en disant l'amour, c'est du désir. Le désir, quand on ne me le donne pas ou quand il n'est pas partagé, devient de la souffrance. Et donc, on a tout un tas de sa vie, tout un état de sa vie où on est en situation de souffrance. Et puis, quand on a exactement ce qu'on veut, on n'a plus de désir, donc on n'a plus d'amour. Ouais. Et donc, on passe dans un deuxième état qui est l'ennui. Et donc, il donne une conclusion qui est plutôt dépressive, qui dit ta vie, tu passes ton temps à osciller entre la souffrance et l'ennui.
Je me rends pas vraiment compte si ça c'est une vérité pour tous. J'ai pas l'impression quand je regarde.
Pour moi ça c'est absolument universel.
De souffrir physiquement et avant de changer.
D'osciller entre les deux. Pour moi c'est absolument universel.
Ouais, c'est le moteur de la majorité des gens sur Terre. Quand tu regardes ce qui constitue les gens. Toi, ta personnalité, elle est constituée de ton histoire, de ton rapport à tes proches, de ton rapport à ta famille, des gens qui t'ont vexé quand t'étais petit, de ceux qui t'ont dit que t'y arriverais pas et à qui t'as envie d'avoir donné tort, etc., etc. Donc, en fait, tu es construit sur ces terreaux-là émotionnels. Mmh. Et la réalité, c'est que c'est ces émotions qui sont ancrées comme des marqueurs profonds en toi qui te motivent chaque jour. D'ailleurs, tu nous le racontes sans arrêt, sans t'en rendre compte.
Oui, mais pour moi, c'était plus psychologique que physique ou que...
Bon, c'est pas vrai, hein, t'es le premier à souffrir physiquement quand un truc va pas...
On va pas tout savoir, les gars, on va tout savoir.
Va pas au bon rythme ou t'emmerdes, ça peut te rendre malade.
Mais c'est pas forcément physique.
Il est capable de se dévorer quatre phalanges.
Souvent, les deux sont liés quand même.
Oui, c'est... Ah oui, 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 ok, oui, oui. C'est marrant parce que sur la plupart des points, on est obligé. Forcément, on le partage, mais moi, je me pose vachement... je fais une rétrospective, tu vois, quand Manuel fait des points et tout, je me dis, attends, mais pourtant, moi, ça fait pas comme ça. J'ai l'impression que parfois, c'est très égocentrique la façon dont j'ai de penser. Je me dis, mais attends, est-ce que ça s'adapte vraiment pour tous? Parce que moi, j'ai pas eu l'impression de souffrir physiquement et autres, mais.
Mais après, ça s'exprime à des degrés différents chez les gens.
Ouais.
Moi, j'ai pas besoin, par exemple, si demain tu me donnes un conseil, j'ai pas besoin de me forcer à ne pas le respecter et à voir que ma méthode ne marche pas pour appliquer ton conseil. Pour moi, ça, c'est une pauvre perte de temps. Je me dis, t'es complètement con. Lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Si ça fait 10 ans qu'il fait ça et que ça marche et que moi, je le fais pas, c'est que c'est moi qui suis complètement con. Donc, à un moment, il faut que j'y aille. Parfois, c'est plus dur.
Mais ça dépend. C'est bien. Il y a des gens qui considèrent que, qui vont t'écouter, qui vont dire OK, machin, etc. Mais qui vont quand même chercher une autre façon.
Mais ça,
alors
c'est
que tu leur donnes exactement comment il faut faire. Alors, peut-être que ça va leur prendre 2 jours de se rendre compte que, en fait, t'avais raison et que c'était ça la bonne façon. Peut-être que ça va leur prendre 20 ans.
Mais le pire,
et
c'est
peut-être qu'ils s'en rendront jamais compte.
Le pire, c'est quand t'as l'ego qui se met là-dedans, quoi.
Bah,
il y a
oui.
des gens par ego, parce qu'ils ont pas le même âge que toi, parce que ceci, parce que cela, parce qu'ils se pensent supérieurs. Jamais ils essaieront d'appliquer, même pas essayer, quoi. C'est ça le truc. Et moi, c'est un truc au fur et à mesure avec les relationnels qu'on a, etc. En découvrant certaines personnes, je me suis dit putain, c'est fou. Ils sont dans une pièce avec telle et telle personne qui ont fait ça, qu'ils leur disent que tout ça, ça fonctionne depuis des années, ça a traversé des décennies, et pour autant, ils repartent en disant « Non, mais moi, je vais... » Tu... Oh, putain, mais c'est grave.
Il y a des gens, ça fait 25 ans qu'ils font de la pub, des 25 ans qui tournent des vidéos, etc. Et ils n'ont rien à apprendre.
C'est dommage, je trouve.
Mais c'est lié à ce 15e point, parfaite transition, qui est... La première maladie empêchant le changement, c'est l'arrogance.
Ah, ben voilà, exactement.
Oui, on y est. Alors. Quand même.
Non, mais parce que toi, ça te fait partie de ton personnage. Ne confonds pas
du tout
ton personnage.
Pas du tout, je suis pas du tout d'accord.
Son personnage n'est pas arrogant.
Non. Non. Son personnage a confiance en lui et ses connaissances.
Tu vas dire que moi,
arrogant.
Tu vas dire que moi, par exemple, je suis beaucoup plus arrogant que Léo. Je suis sûr qu'il va dire ça.
J'étais sûr. Léo, il est pas arrogant. Il y a des gens qui interprètent ça comme de l'arrogance, mais il est pas arrogant. Quand il dit un truc, il est sûr de lui. Quand il défend une idée, il y croit à fond, donc il n'en doute pas, etc., etc. Et en fait, les gens ne sont pas habitués à avoir en face d'eux des gens qui ont réfléchi et qui arrivent avec un raisonnement construit et qui n'ont pas peur de l'adversité. Mais ça s'appelle de la confiance en soi. L'arrogance, c'est je sais tout, je n'écoute jamais tes arguments et je ne suis pas capable d'infléchir ma position.
Eh ben merci, bonne soirée.
Est-ce qu'on peut mettre un audio en bio sur Twitter? Parce que je pense que je vais prendre cet extrait et je vais le mettre dans ma bio Twitter, ça va beaucoup me servir. Merci, Manuel. Non, moi, je voulais rebondir sur un truc, c'est que ce truc d'être dans une pièce avec des gens qui ont déjà réussi, qui t'expliquent comment ça marche depuis 10 ans, etc., à la fois... Ça peut être de l'arrogance, ça peut être déplacé, ça peut être con. Et en même temps, ça peut être totalement un indicateur de changement. En fait, si t'es un petit génie, tu vas apporter quelque chose qui se fait pas depuis 10 ans, en fait. Tu vas apporter quelque chose de nouveau. Donc, la plupart des gens qui écoutent pas les conseils de ceux qui sont là depuis 10 ans, effectivement, ils vont faire de la merde. Mais t'en as 2-3 qui ont un truc en plus, qui apportent quelque chose au marché qu'on n'avait jamais vu avant. Et qui vont transformer ce marché, qui vont le retourner, en fait. Pour moi, c'est pas forcément un défaut que de considérer que les gens qui sont là depuis 10 ans font forcément bien.
En réalité, il n'y a pas de privilège de l'âge. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que tu peux faire quelque chose qui fonctionne depuis des années, et pour autant, il faut avoir l'humilité de se dire que ce qui est ta vérité ou ta solution n'est peut-être pas valable dans un autre contexte. Et il suffit, finalement, d'assez peu de choses pour que ce qui est ta secret sauce devienne complètement inadapté dans un autre contexte. Donc, et c'est lié à ce qu'on dit sur l'arrogance, c'est-à-dire que oui, tu peux être sûr de toi, oui, tu peux défendre un point de vue, etc., etc., mais en même temps, tu as l'humilité de reconnaître que dans un autre contexte, ou pour quelqu'un d'autre, ou avec une autre équation personnelle, cette vérité est toute relative.
Bah, en fait, oui, il faut juste, à partir du moment où tu écoutes, que tu prends l'information, que tu la rejettes pas tout de suite, c'est plus de l'arrogance. T'as fait une analyse, en fait, de ce qu'on vient de te dire, du conseil qu'on t'a donné, etc. Moi, je sais que sur YouTube, j'ai un format qui n'existe pas. Je suis arrivé avec un truc, ça, même aux États-Unis, etc., ça n'existe pas. Mais parce que j'ai regardé tout ce qui se faisait ailleurs, et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, ça a beau marcher depuis 10 ans, je sais que c'est un truc qui fonctionne, etc., que les gens regardent, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas moi, en fait. Donc, j'ai accepté que ça fait partie de leur personnalité à ces gens-là. Je suis très content que ça marche pour eux, etc. Mais je sais que c'est pas moi. Donc, moi, je viens avec un truc qui est assez nouveau et qui me ressemble beaucoup plus. Mais les deux peuvent cohabiter, en fait.
Romain, oui. Commentaire.
Oui, non, je suis d'accord. Du moment où tu écoutes l'autre, peu importe qui est l'autre, c'est pas de l'arrogance. Le pire, c'est quand t'es dans des conversations où t'essaies d'avoir un échange et t'as la personne en face qui c'est horrible, en fait. Bah, si tu sais tout, pourquoi tu viens au rendez-vous, pourquoi tu... Ouais.
En fait, on a tous eu cette arrogance adolescente.
Bah, évidemment.
Mais il y a des gens qui restent adolescents.
Mais je pense qu'on l'a encore de temps en temps, sans s'en rendre compte. On est tous le con d'un autre. Hein.
Bien sûr.
16e point. Les gens qui ne changent pas ont en fait peur d'avouer leur faiblesse au grand jour.
Ok.
Oui.
Ok. Ça rejoint le courage.
Exactement.
Bien sûr.
Ok.
Bah voilà. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui n'avouera pas que ça, il s'est trompé, que là, il a revu son opinion, ou qui n'est pas capable de se contredire, de dire voilà. J'avais telle opinion, mon opinion a évolué, etc., etc. C'est d'ailleurs valable beaucoup chez les politiques.
Ouais.
C'est la saison d'en parler. Il y a assez peu de politiques, vous l'aurez remarqué, qui sont capables de dire mon opinion a évolué sur ce sujet. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Bien, pour moi, ça, les gens qui sont capables de verbaliser ça, c'est le signe qu'ils vont être capables de changer. Ouais. Ce qu'on dit, bon, depuis le début de cet épisode en deux parties, on dit qu'est-ce qui nous empêche de changer, mais il y a aussi là-dedans des critères qui te permettent de détecter des gens qui sont capables de changement. Ouais. Et ça, c'en est un. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de verbaliser ça, eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit capable de changer.
La provocation, tu te rends compte avec ces gens-là que la provocation d'un changement d'opinion ou alors d'un échec, etc., c'est toujours un élément extérieur.
Bien sûr.
Et on le voit tout de suite chez certaines personnes, parce que on voit qu'elles ont beaucoup de problèmes avec tous les gens qui les entourent, et au bout d'un moment, tu commences à faire le calcul, tu dis, mais attends, j'ai l'impression que t'as beaucoup de problèmes quand même avec tes proches, tous tes potes disparaissent du jour au lendemain, je dis, bah, peut-être qu'il y a un élément perturbateur, et c'est peut-être toi, en fait.
Bah, moi, je dis souvent que quand un mec te dit que tous les autres sont des cons, faut quand même se poser deux, trois questions.
Bah, le regard des autres, c'est une grosse part... d'une raison qui fait que les gens ont peur de changer complètement. Mais c'est plus ça, j'ai l'impression, que tu mets un être humain, peu importe qu'il soit tout seul au fin fond de la campagne, il voit qu'il y a un truc qui marche pas, et bah, il change le lendemain, il a pas peur de se planter, puis il est tout seul, il y a personne qui le regarde. Si... Ne serait-ce que les changements de style vestimentaire, ou changements de coupe de cheveux, ou des trucs, mais tout bête.
De sexe.
Aussi.
Tout bête.
Les gens qui aimeraient avoir une autre coupe de cheveux, mais qui ont juste peur du regard des autres au bureau. Mais ça, à mon avis, je pense que ça représente beaucoup plus de gens qu'on croit, quoi. C'est ouf. Et pour autant, t'es...
D'ailleurs, Manuel, je suis assez fier que t'aies eu le courage de mettre ton sarouel aujourd'hui.
C'est sûr.
Ça change du kilt.
Je pense pas tellement que ce soit le regard des autres. Je pense que c'est vraiment l'amour propre.
Ah, moi, je pense que le regard des autres fait plus mal aujourd'hui avec les réseaux sociaux que l'amour propre.
Oui, mais par rapport à ce que disait Manuel, par rapport à ce point précis, pour moi, c'est vraiment, ce sont des gens qui ne s'aiment pas tant que ça. Ils savent à quel point leur amour pour eux est fragile, et donc ils veulent surtout pas se remettre en question sur quoi que ce soit.
Je suis d'accord. Manque d'humilité, trop d'amour propre. 17e point.
17e. C'est long à dire.
Ah bon? Pas tant que ça, je trouve. C'est très bizarre comme réflexion.
17e. Je sais pas si je vais réussir à le retenir dans le futur.
Des fois, il bug, hein.
À la vôtre.
Un truc tout bête, mais qu'il faut quand même dire, dans beaucoup de cas, les gens sont trop fainéants et indisciplinés pour changer.
Ouais.
Parce que ça demande de l'énergie et de la discipline.
Bah, c'est même le point principal, je pense.
Voilà. Ah ouais, c'est deux points même, j'ai envie de dire, bien séparés, tellement c'est une montagne, ces deux points-là. Pour
t'es gentil, je l'ai mis dans le 17e point. Voilà. Donc ça te pose un problème.
17 et 18.
Tu vas te
c'est
faire
loin de dire.
Il est en train de critiquer ta liste.
Ouais. Bah, il en a pas. Moi, je vous amène mes listes. C'est déjà pas mal quand même.
Non, oui, je pense que c'est le premier point. C'est le premier obstacle au changement.
Ça mérite pas c'est beaucoup de s'y attarder, mais il y a plein de gens qui ne font absolument rien par flemme.
Ouais.
Je pense que la pire des situations, pour la vivre plusieurs fois, c'est de te dire « Putain, je sais que pour faire ça, si je prends juste là maintenant 2 heures pour bien le configurer, bien le faire, toutes les prochaines fois où je devrais le faire, ça ira 10 fois plus vite, ça sera beaucoup plus bénéfique dans ce que je dois entreprendre. » Et pour autant, sur le moment, t'as justement ton côté très rationnel, j'ai l'impression, de ton cerveau qui te dit « Ah non, mais là, ça va quand même plus vite de faire ça, parce que ça, tu sais le faire, t'as l'habitude de le faire. » Alors que tu sais que juste si t'investissais un petit peu de ton temps, ça marcherait mieux.
Et c'est pour ça que c'est important de mettre en place un système pour que ce soit quasiment automatique. Et c'est pour ça que les conseils de Miracle Morning, etc., ça cartonne. C'est parce qu'à partir du moment où tu mets en place un système, tu fais plus confiance à ton cerveau et à ton émotion sur le moment et à ta motivation pour vivre la vie que tu as envie de mener.
Mais c'est aussi pour ça qu'il faut se mettre dans des situations d'inconfort.
Ouais.
Qui abaisse la barrière à l'effort. Mmh. En fait, tu as souvent la flemme quand tu es très confortablement dans ton canapé,
ça rejoint la souffrance.
Bien installé, etc. C'est mon prochain point.
Ça rejoint la souffrance.
On dirait presque qu'on a travaillé, disons. Mon prochain point, le 18e point, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une de mes newsletters.
Manueldiaz.
C'est.fr,
c'est ça?
Oui, c'est le lien est sur mon Twitter ou sur mon site. Changer, ça demande de sacrifier. Ça demande de sacrifier des choses ou des gens. Mmh. Et
les gens, alors, c'est le plus facile.
Des gens dans la limite du,
oh,
du
non,
légal
non.
Quand même.
Bon, non, non.
C'est-à-dire pas physiquement, pas on ne va pas les tuer, ouais, on ne fait pas de sacrifice.
Oui, non, je préfère le dire.
Tant que ça
ne
se voit pas en vrai, les gars, moi, ça ne vous dérangerait pas demain matin si
après, pas
de
vu,
te
pas,
sacrifier.
Pas vu, pas pris.
Non, ça, voilà, pas vu, pas pris.
Pas
quoi.
Vu, pas pris.
Ok. Ouais,
c'est le 21e point d'ailleurs.
Et on ne développe plus assez le sens du sacrifice. C'est-à-dire qu'on a élevé beaucoup de générations en leur disant bon, on est dans l'économie de la profusion. On peut se permettre de ne pas choisir, tu ne sais pas si tu veux tel plat ou tel plat, ben prends les deux, tu mangeras celui qui te plaît le plus. Aussi parce que beaucoup de parents capitulent, parce que au lieu, ça prend du temps d'expliquer à un enfant que choisir c'est important et que renoncer ça fait partie du mécanisme qui t'élève, etc. etc. Mais en fait, par simplicité, on dit au gamin, bah tiens, t'as qu'à bouffer devant un iPad, et au moins hein, les parents ils ont la paix, ils peuvent faire autre chose, voilà. Et on n'apprend plus ça, en fait, ouais. Pas assez à mon sens. Et entretenir la culture du sacrifice de l'inconfort, c'est un truc très important.
Et pour c'est le coup, excuse-moi, encore plus avec Romain, pour être poli, on est une génération qui peut tout avoir.
Bah c'est surtout que nos parents nous ont dit « Ah, moi, j'avais pas à ton âge, alors toi, tu vas le... » c'est tu remets sur
oui,
l'autre.
On la connaît, l'anecdote de nous, on avait une orange, tout ça.
Mais moi, ça, je trouve ça tellement criant de vérité. C'est caricatural, mais ça fait un peu vieux con de dire ça, mais je trouve qu'on n'apprend plus aux gens à faire des choix, à dire bah, si tu prends l'option A, ça veut dire que l'option B, elle ne s'exercera plus. Ouais. Et c'est fini, c'est comme ça. Et tant mieux. Ça te simplifie le paysage, en fait. Donc maintenant, tu es obligé d'exceller dans l'option A, en fait. Tu vois. Ouais. Ça, on... Non, on dit aux gens, mais garde un filet de sécurité, tu peux toujours revenir en arrière.
C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'adore le fait de mettre tous mes yeux dans le même panier. On parlait de sacrifice.
Ah ouais. Tu les mets où tu veux. Hein,
j'adore ce truc-là qui dit que j'ai une compétence, je vais tout mettre là-dedans. Je ne vais pas essayer de savoir tout faire. Je ne veux surtout pas savoir tout faire. Je veux faire un truc, mais je serai le meilleur dans ce truc-là. Tout le reste... Je le sacrifie.
Je suis d'accord. Et
on
je pense
de voir.
Que c'est... Quel connard. Je pense qu'il faut se condamner à de bonnes choses. Et c'est ça ce que tu décris. C'est que tu te condamnes à devoir réussir parce que de toute façon, tu n'as plus d'autres options possibles. Tu as éliminé les autres options.
Ouais.
Et la quantité de gens qui disent « Mais attends, je suis entrepreneur. Mais alors attends, j'entreprends une boîte, mais... Je la fais en plus de mon job parce que si jamais ma boîte marche pas, il faut quand même que je me.
Puis j'ai mon pote le week-end qui fait ça, donc je vais l'aider aussi.
Catastrophe.
Mais même dans ton propre secteur, ça peut être hyper intéressant de te spécialiser sur un truc très précis. Donne un exemple, un médecin qui se spécialise dans le fait d'aider les gens à fumer, bah, il va développer une compétence folle. Et moi, sur le papier, si j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est ce médecin que je vais aller voir.
Ah oui, arrêter de fumer, c'est, il manquait un mot.
D'aider les gens à fumer.
T'as dit d'aider les gens à fumer.
Bon, après, le médecin peut aider les gens à fumer.
Je me suis dit.
Alors, ça, par exemple, c'est une spécialité rare.
Au moins, si j'ai envie que quelqu'un m'aide à fumer, je vais aller voir ce médecin, il sera le seul en France. Donc, oui, il manquait un mot. Mais je pense que ça peut être très intéressant de se spécialiser à ce point-là.
Exactement. 19e point, avant-dernier. Les gens résistent au changement qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qui n'a pas été décidé par eux-mêmes.
Ça aussi, c'est de l'amour propre.
Et ça, c'est terrible, c'est ce que disait Romain tout à l'heure. Alors lui, pour le coup, il a cette qualité. Ouais. C'est-à-dire que Romain, il n'a pas d'ego sur cette question. En fait.
Non. Alors par contre, maintenant qu'on lui a dit une qualité, je peux lui prêter un défaut. Je pense que Romain...
Pourquoi moi, les gars?
Il va écouter un avis extérieur, mais il va se persuader que ça vient de lui. Je crois que c'est pour ça que ça marche aussi bien.
Alors, si je peux mettre quand même mon propre
avis sur toi.
Point suivant. Voilà. Non, c'est Manuel, le point suivant, on écoute.
Ça dépend beaucoup de qui. En fait, oui, j'ai cette qualité-là, de ce que tu disais, Manuel. Et oui, Léo, j'ai cette qualité-là. J'ai la qualité.
C'est des défauts, moi.
C'était une belle qualité. Mais les personnes qui ont ce pouvoir sur moi, il y en a peut-être deux ou trois.
Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'entourage. C'est-à-dire que tu vas écouter de vrais conseils de gens qui t'ont confiance et tu sais qu'ils vont t'apporter quelque chose, mais tu vas pas écouter le conseil d'un random, un mec que tu connais pas, qui va te dire oh, « ça serait bien que tu fasses ça, tu sais pas qui il est, tu sais pas ce qu'il fait. »
Je vais l'écouter, je vais observer, mais j'appliquerai jamais en moins d'une heure ce qu'il va me dire.
Mais bien sûr.
Ça, c'est sûr. Je prendrai pas ce risque-là. Tu peux continuer, Manuel, sur les éloges, hein, si tu veux. Je suis là, moi.
Dis une qualité, à chaque fois, je dis un défaut comme ça, en contrebalance, il prend pas trop la grosse tête parce qu'on le connaît, lui. Hein.
Écoute, c'est parfait, on arrive au dernier point.
Déjà ?
Bah oui, 20e point.
Oh non, on fera une troisième partie ?
Bah, c'est 20 sur 20. Là,
sinon, donc... take out, on peut faire que des parties comme ça de... sur le changement.
20e et dernier point. Changer détruit leur confiance en eux.
Ouais.
Ce serait considérer le changement comme une trahison de soi-même.
Parce que leur confiance, c'est basé sur un tas de croyances qui, du jour au lendemain, sont balayées.
Exactement.
Mais moi, c'est tout l'inverse.
Ah
ouais ? Moi, plus je fais des trucs où les gens me disent « Pourquoi tu fais ça là ?» et tout, plus ça m'excite, quoi. Ça m'éclate. Je me dis « Putain, tu vois, ils ne m'attendaient pas à ce tournant-là. Bon, je vais le faire encore mieux et encore plus pour les faire chier. »
Alors, de là à chier dans la poubelle de l'open space cet après-midi,
voilà.
Je trouve ça un peu hardcore.
Ah non, mais moi, c'est ce que... En fait, c'est ce qui me frustre beaucoup, c'est que quand t'observes la plupart des gens qui ont envie de réussir, ils acceptent pas tout ce qu'on vient de dire là dans les deux parties. Et quand ces gens-là, mais une fois dans l'année, t'envoient un petit SMS ou te disent un truc, et tu ressens que tu les as choqués dans un truc ou autre, tu te dis putain, je suis sur le bon chemin, quoi.
Ouais.
Si lui me dit ça, c'est que j'ai assez vite changé, et peut-être radicalement, pour qu'on l'observe rapidement.
Mais c'est marrant parce que Romain, c'est une machine à changement. J'ai remarqué plusieurs fois, en général, quand Manuel te dit un truc, il te fait une remarque ou il te donne un conseil, que tu l'appliques quasiment instantanément.
Ah, sur le business,
c'est-à-dire
bah,
que le lendemain, je vais t'entendre dans une conversation et tu vas te forcer à appliquer ces conseils-là pour que ça fasse partie de ton système. En fait, tu as un logiciel qui pompe en permanence les conseils de gens que tu considères comme étant fiables et tu vas l'appliquer tout de suite dans ton logiciel.
Bah, je vous donne un exemple tout bête sur un tout autre sujet. Je regarde souvent les actions en bourse, la finance et tout ça, ça m'éclate. Jusqu'à présent, Manuel en est témoin, je faisais un peu d'achat, de revente et autres, ce que pourrait faire un trader. J'ai lu en un seul week-end le livre de Warren Buffett sur la façon dont lui investit. Ah ben, je peux t'assurer que depuis ce livre, je n'ai jamais réouvert mon compte en banque. Et pendant les 15 prochaines années, je ne le réouvrirai pas. Si je veux faire d'autres conneries, je le ferai sur un autre compte. Ouais. Pourquoi ? Pour comparer. Parce que je suis persuadé que si ce mec en est là aujourd'hui avec ses méthodes à lui, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai envie de tester. Mais pour tester, malheureusement, ça, c'est du très long terme. Donc, ça demande encore plus d'abnégation. C'est à chaque mois, à chaque fois que tu as envie de faire ta connerie, tu te dis, putain, non, souviens-toi de ce que tu as lu.
C'est là que je comprends pas qu'on soit potes. C'est que toi, tu n'es pas du tout émotionnel. Mais pas du tout. Sur tous ces sujets-là, enfin, tu es un algorithme. On t'impose une règle. Tu vas l'accepter, tu vas l'appliquer direct. Alors que moi, je suis tout l'inverse.
Pourtant,
je confirme.
Non, je suis émotionnel, mais pareil, avec très très peu de personnes. Je pense que je suis émotionnel sur certains sujets, dans certaines circonstances, mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que les compétences que tu développes, bah, elles te permettent de créer de la valeur, peu importe où tu es, peu importe ce que tu veux faire, etc. Donc, à un moment, quand tu lâches prise sur des points de vue juste business, à un moment, je me dis, bon, bah ouais, ok, t'échoues. Bah...
Ouais, mais donc l'émotionnel prend jamais le dessus. Donc t'es pas émotionnel.
Jamais. Ouais, ok. Je sais pas.
Vos deux drivers de changement sont pas du tout les mêmes.
Ah non. Non, on se ressemble pas du tout, on est à l'opposé. Et puis il y a Manuel qui est au milieu.
Est-ce qu'on peut préciser?
Mais, en vrai, on parle peu de Manuel dans ces podcasts. À chaque fois qu'on parle, de Manuel, il dit oui,
on des lettres, on s'en fout. Ras le cul. Est-ce qu'on pourrait baisser le son
non,
de Manuel?
Un truc qui est super intéressant pour le coup, c'est que un profil comme Manuel qui exerce son métier depuis très longtemps, qui a développé plein de compétences, etc., tu peux lui rajouter des tout petits trucs au milieu de son planning qu'il a jamais fait de sa vie. Et tant qu'il l'a pas testé par lui-même et benchmarké et vu dans tous les sens, jamais il te dira que c'est de la merde ou que c'est très bien ou que tu peux le déléguer à quelqu'un. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours bluffé. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette écoute et ce respect. Ouais. Je me dis, putain, après justement avoir fait tous ces trucs-là où tu pourrais te dire, bah, qu'est-ce qu'il en a à foutre de la gueule des autres, etc. Il peut rester dans son coin tout seul, ouais. Il a fait son truc, tu vois, les sociétés fonctionnent et tout ce que tu veux. Ben non, en fait, non. À chaque fois, il retourne de zéro.
Ah ouais, je serais tellement pas comme ça.
Mais moi, c'est ça. Tranquille. Mais c'est ça qui est ouf. C'est que t'as des trucs où je me dis, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, Manuel? Et il est content. Et il sourit, il dit, oh, ben j'ai fait ça, j'ai testé ça, puis je verrai bien et tout. Et en fait, c'est une vraie caractéristique quand tu lis ouais, sur plusieurs profils. C'est un peu des. Je peux utiliser le mot philanthrope. C'était profil philanthrope. Tu remarques cette faculté, parfois, d'aller toucher un boulon qu'ils ont jamais touché de leur vie. Juste pour dire, pourquoi ce boulon, il le vise tout le temps dans ce sens-là? Bah, non, moi, regarde, attends, je vais essayer comme ça. Il sait. Et le jour où ils l'ont vissé dans un autre sens, mais qui fonctionne mieux, bah, hop, ils le redélèguent à quelqu'un.
Mais ça, je crois que c'est une caractéristique de l'entrepreneur, en fait. C'est une qualité obligatoire à avoir si tu veux entreprendre.
Mais je pense que pour entreprendre, ne serait-ce que pour soi-même, dans sa vie personnelle, avec ses enfants, avec sa famille, si tu arrives ne serait-ce qu'à développer une petite once de cette caractéristique-là, mais c'est génial.
Ouais.
Enfin, des trucs à la con, ne serait-ce que vivre en couple, à chaque fois quand tu t'apprêtes à aller râler sur l'autre, juste essayer de comprendre deux secondes la psychologie de l'autre et se dire, bah, pourquoi je ferais pas pareil juste pendant 48 heures? Voir si ça me fait chier ou pas. Juste cette faculté-là à te remettre en question, je trouve que ça te simplifie la vie.
Il y a aussi une guerre d'ego en fait. En général, t'as envie d'avoir raison, t'as envie d'être la personne qui fait les choses bien.
Et ben, je pense
c'est pour ça que tu te mets pas à la place de l'autre.
Ouais, mais le point primordial, je pense, avec ces 20 points, c'est l'ego. Si t'oublies deux secondes ton ego, ben en fait, les 20 points que t'as expliqués, Manuel, ils sont beaucoup plus facilement atteignables.
Alors, puisqu'on arrive à la fin de cette liste et à la fin de cette deuxième partie de podcast, moi, j'avais une question pour vous.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez changé que vous ne pensiez jamais changer? Et qu'est-ce que vous avez changé? C'est une double question. Où ça s'est avéré particulièrement difficile, mais payant.
Alors Manuel, je te retourne la question.
Je pense savoir, oui.
Ben, dis-nous.
Non, je veux que vous disiez en premier.
Oh non!
Ça va vous influencer.
Moi, j'ai... J'ai arrêté de considérer en premier lieu que j'avais toujours raison.
Ah,
voilà. Ça, c'est le plus gros changement, je pense. Mais même avec des proches, etc., j'essaie aujourd'hui ce que je n'avais jamais fait de ma vie avant de me rendre compte que finalement, le côté sociable pourrait m'apporter ça. C'est d'essayer de me mettre à la place de l'autre et de comprendre la différence de psychologie. J'ai encore beaucoup de mal à le faire. Je parle à Monsieur A comme je parle à Madame B, mais... J'essaie de plus en plus, avant de négocier quelque chose, d'essayer d'apporter quelque chose, de comprendre l'autre, etc., de comprendre sa psychologie. Je pense qu'en développant ça, bah, j'ai compris que ma façon de faire n'était pas toujours la bonne. Et c'est surtout que ce qui m'a vraiment apporté du plus, c'est de tester des choses que j'aurais jamais considérées avant.
Et mais, le changement qui a été le plus douloureux, mais qui a été payant?
Je sais pas si on le laissera au montage, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est d'arrêter de considérer l'argent comme
un critère de succès.
Un critère de succès, voilà, c'est ça.
Ah, ça, c'est intéressant.
C'est
ça.
Bien.
Ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait le plus de mal, parce que bah, je le dis, oui.
Parce que tu as l'impression de trahir ta patrie.
Bah, évidemment. Non, mais...
tu es monégasque.
Bah oui, mais tu grandis à Monaco pendant toute ta vie, tu vois que des bagnoles de luxe, etc. Et celui qu'on prend en photo sur la place du casino, c'est pas celui qui boit son café avec son petit pantalon noir que personne remarque et qui pourrait être multimilliardaire. Non, c'est celui qui sort de la Bugatti devant le truc, qui pourrait juste être millionnaire.
Et qui a un pantalon rose qui clignote.
Voilà. Et ben ça, pour le coup, et
d'où le bon goût monégasque.
Parfois, ça reprend un peu le dessus. Hein. Parfois, il y a des trucs que tu peux faire.
Dessus,
voilà, en business et tout, je me dis. Voilà.
Ah, ça reprend parfois le dessus, oui.
Mais non, ça, pour de bon, c'est le truc qui m'a fait le plus souffrir. C'est de me dire que, en fait, la façon que j'avais de percevoir la vie, c'était pas du tout la réalité. Quoi.
Léo,
moi, je crois que j'ai pas tant changé de trucs que ça, en fait.
Ah si. Oh, bah là, là.
Ah ouais. Oh. Il est fou. Cet
homme
est
incroyable.
Fou. Ah ouais.
Pour moi, t'as développé une capacité mais folle que j'avais direct quand Manuel a posé la question. Moi, j'en ai une en tout cas.
Ah ouais. C'est quoi?
La faculté à s'adapter.
Ouais.
T'en avais zéro quand on s'est rencontrés, mec.
Ouais, c'est vrai.
C'était soit on faisait à ta façon, soit tu répondais quand t'en avais envie et c'était qu'à ta façon. Mmh. Et là, la faculté à t'adapter, t'as compris que ça pouvait apporter parfois. Un peu plus de plus que simplement du négatif, de déranger ton planning de ta journée et d'influencer. Genre le nombre de fois où je peux juste taper à ta porte, tu me dis non, on discute et tout. Oh mec, à l'époque, ça aurait été impossible.
Ouais.
Tu serais même pas venu en fait au bureau, de peur que...
Ah bah ça c'est sûr. Ça, c'est
la vie sociale, Léo.
C'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est qu'effectivement, je pensais jamais pouvoir bosser dans des bureaux. Et finalement, on a trouvé un juste milieu dans lequel j'ai quand même mon bureau, je suis quand même tranquille. Mais on se voit quand je vais prendre mon café, quoi.
Un peu plus.
Et un peu plus. Quand vous venez prendre votre café dans mon bureau, également.
Manuel,
10 fois par jour.
Et le changement qui a été le plus difficile, mais qui s'est avéré payant.
En fait, j'ai pas l'impression d'avoir trop. J'ai beaucoup changé, mais extrêmement naturellement.
Ah mais
ça a
pourquoi
été
pas
hyper,
on a pas on j'ai pas parlé de la méthode.
Non mais du coup, j'ai pas trop souffert. Par contre, moi ce qui a beaucoup changé pour moi ces dernières années, c'est que je suis beaucoup plus serein. J'ai transformé la vision que j'avais de mon travail et de ce que je fais, etc. Je suis moins exigeant qu'avant parce qu'avant c'était catastrophique et c'est ce qui fait que j'avançais jamais sur les projets. Ce truc-là, ça a été difficile pour le coup. De relâcher un peu, de me dire je vais sortir un truc qui est pas parfait. Je vais faire un travail qui est quand même largement au-dessus de la moyenne, mais qui est un peu en deçà de la vision que j'ai de ma propre personne et de ce que je suis capable de sortir. Ça, c'est le truc le plus dur. Je sais pas si ça me fait souffrir, parce que au contraire, ça a un impact positif. Je suis beaucoup plus serein avec ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais ça, pour le coup, c'est extrêmement difficile pour moi.
Manuel, t'es d'accord ou pas d'accord?
Avec ce qu'il a dit?
Ouais. T'as une autre...
Non, je pense que c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Après, je vois d'autres choses où il a changé et où ça lui fait du bien. Et
vas-y, on veut savoir.
Vous voyez des trucs que je ne vois pas, les gars.
Vas-y, Manuel.
Léo s'expose un peu plus émotionnellement.
Ah ouais, peut-être.
Ah oui, en plus, tu m'en as parlé récemment.
Ah ouais?
Ouais.
Deux.
Bah, du fait que justement tu pouvais être un peu plus à l'aise à exprimer réellement ce que tu ressentais, ce que tu pensais, même d'un point de vue amical, t'es moins dans la peur de dire réellement à l'autre ce que tu penses, quoi.
Ouais, c'est toujours un peu difficile quand même ça, hein, mais ok.
Mais t'as vachement progressé là-dessus.
C'est pas ce que je fais le plus, mais
avant la relation à l'autre était basée sur les vannes.
Bah, c'est toujours beaucoup le cas, hein.
C'est le cas dans 99,9% des gens qui t'entourent. Oui. Nous, on a la chance d'être dans le petit pourcentage qui reste de côté.
Ah ouais, c'est marrant.
Mais c'est un progrès.
Ouais.
C'est un vrai progrès.
Ouais, c'est peut-être le plus difficile, ça.
Ah.
Ouais, c'est vrai.
Je la connais, la bête. Hein.
Manuel.
Oui.
Bon, on t'écoute.
Et toi?
Moi, ça n'intéresse personne.
Si.
Bah si, ça nous intéresse, nous.
C'est quoi le truc pour toi où... tu te dis que tu as le plus changé avec, enfin j'en sais rien, si tu dois comparer à l'adolescent ou au jeune entrepreneur quand t'as démarré ta boîte, etc. Genre, c'est quoi pour toi le plus gros changement que t'as dû accepter de faire pour pouvoir emmener justement tes équipes, le business qui...
Pour te sentir mieux.
Que le monde est divisé en trois.
Je suis quasi sûr qu'il y a un peu plus de continents que ça, Manuel.
Ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, et ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas.
Ah. Et moins on en sait, plus on croit en savoir.
Ah ben ça, c'est sûr. Moins on en sait, plus on crée des certitudes pour être persuadé que,
qu'on sait,
et c'est rassurant. Et donc, non, je pense que là-dessus, j'ai vachement progressé. Comme j'ai démarré... Vous dites sans arrêt que ça fait très longtemps que je travaille, etc. Mais je précise que j'ai démarré très tôt.
Bah oui.
Donc non, ça ne fait pas moi un ancêtre.
Ah non, t'as démarré à 17 ans.
Après, t'as 77 ans, donc ça fait un paquet d'années quand même.
Quel connard. Je pense que avec le temps, tu es beaucoup plus à l'aise avec le fait que des choses t'échappent. Et
tu voulais tout contrôler avant.
C'est rassurant de te dire ça, je le sais, et ça, je ne le sais pas. Mmh. En fait, de penser que le monde est divisé en deux, c'est beaucoup plus rassurant de te dire ça.
Oui, parce que tu as le contrôle sur les points sur lesquels tu n'as pas le contrôle.
Exactement.
Mais le fait que des choses t'échappent et que tu ne te rendes pas compte qu'elles t'échappent, ça, pour toi, c'était terrifiant.
C'est surtout que ça... c'était rassurant de se dire... C'est comme des levels, quoi. C'est-à-dire, quand tu penses que le monde est divisé en deux dimensions, tu te dis, je suis au level 7 sur 250. Donc, il en reste un certain nombre à franchir pour arriver au bout. Alors que quand tu comprends que le monde est en trois dimensions et que tu es au level 7 et tu ne sais pas sur combien, parce que quand tu arrives tu étais persuadé que tu étais sur un scale de 7 sur 10 et que quand tu arrives à 8, tu te rends compte que tu passes sur un scale de 200, ça te rend humble, en fait.
Sur la route de la vie, tu n'acceptais pas d'avoir des angles morts.
Oh, c'est mignon.
C'est beauf, moi, je trouve.
Quoi ça,
non, c'est mignon.
Sur la route de la vie, tu n'acceptes pas d'avoir des angles morts. On dirait Jackie qui fait des références tuning.
Oui, mais parce que toi, t'as une vision monégasque. Mais
c'est une vision vroom-vroom.
Exactement.
Dans quelle bagnole? Moi, j'ai pas d'angle mort dans ma bagnole.
Je m'adapte à mon entourage. Hein. Je regarde sur ma droite. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Hein.
Voilà. Ça, je pense que c'est le changement qui m'a pris du temps. Parce que je pense qu'il faut se prendre beaucoup de claques dans la gueule, échouer beaucoup, se rendre compte que tu essayes des trucs qui ne marchent pas, te tromper sur toi, sur les autres, sur tes projets, sur etc., etc., pour arriver à te rendre compte de ça. Et à partir du moment où tu comprends ça, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile.
Et qu'est-ce qui t'a fait du coup le plus souffrir?
À part vous?
Voilà.
Bah, surtout Romain.
Qu'est-ce qui m'a fait le plus souffrir? C'est de me rendre compte qu'on n'aura de toute façon jamais le temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire.
Ça, pour le réaliser, mec. Moi, j'ai pas encore réalisé ça. Pour l'instant, j'ai encore la pensée très utopique de se dire que t'auras le temps de tout faire, etc.
Non, c'est comme ça. Il faut accepter que la vie est une histoire qui a commencé avant toi et qui finira sans que tu connaisses la fin. C'est comme ça, en fait. Et donc, c'est assez douloureux, mais si tu te mets en confiance par rapport à ça, enfin, si tu essayes d'être à l'aise par rapport à l'idée que tu n'auras pas le temps de tout faire, ça te permet de t'appliquer sur ce que tu es en train de faire au moment où tu y penses.
C'est marrant, je suis tellement à l'aise avec cette idée, moi.
Que ça continue
après et que j'aurai pas le temps de tout faire, ça me terrifie absolument pas.
Mais que ça continue après, c'est pas le problème. Évidemment que ça continue, et pour d'autres, et pour plein d'autres gens, etc., etc. Mais y a des gens qui sont extrêmement angoissés à l'idée de se dire « Ah mais merde, j'ai encore 10-12 idées, j'ai pas le temps de les développer » parce qu'en moyenne, c'est des idées qui prennent 10 à 15 ans pour se développer, et voilà. En fait, quand tu y réfléchis un tout petit peu, un projet professionnel ou personnel, il peut rapidement prendre entre 5, 10, 15 ans pour aboutir, s'il a un peu d'ambition, un peu de taille, un peu d'envergure. Donc, ça veut dire que dans ta vie, tu vas développer majoritairement entre 5 et 6 idées maximum.
Est-ce que c'est ce qui fait du coup que...
Donc fais gaffe où tu passes ton temps quand même.
À un moment, plutôt que de développer uniquement ce que toi tu peux toucher et sur lequel tu peux avoir le contrôle, tu développes justement la transmission.
Bah oui.
Tu te dis que c'est que ce qui peut rester.
Tu te dis surtout que si tu arrives à transmettre ça à d'autres,
ça
continue après toi. Tu vois, c'est pas un one man show toute cette affaire. Alors qu'il faut que le spectacle continue, même quand les acteurs changent. C'est ce qui fait les grandes pièces. Le texte avant les acteurs.
Merci les gars.
La bise.
Bye bye.
À suivre le changement, poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps. Je suis en retard, toujours en retard, je suis en retard, en retard. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps. Je suis en retard tout le temps, comme cette salope de lapin blanc.